bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Eureka!
Le cancer regroupe une famille de maladies qui depuis toujours mettent au défi la recherche scientifique du fait de leur complexité. Longtemps considéré comme une fatalité, voire ignoré à cause de son évolution à bas bruit, le cancer a commencé à être dévoilé au 19e et surtout au 20e siècle, au prix d'efforts considérables mais aussi de nombreux tâtonnements. Si cette maladie sort progressivement du tabou, c'est aussi grâce à des progrès de la recherche qui ont permis le développement de toute une gamme de traitements, offrant aujourd'hui aux personnes atteintes de cancer une chance accrue de survie. Cancer, la lutte continue, c'est le défi médical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous accompagner dans cette enquête médicale et biologique, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Caroline Robert. Bonjour. Caroline Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy et vous êtes directrice d'une équipe de recherche translationnelle à l'INSERM sur la résistance thérapeutique. Nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Vincent Barras. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et médecin, professeur d'histoire de la médecine et des sciences à l'Université de Lausanne et au Centre hospitalier universitaire vaudois. Alors, on va commencer cette émission justement avec un petit peu d'histoire et une généalogie du cancer pour démarrer. Vincent Barras, une question tout à fait simple et programmatique, mais qu'est-ce que c'est que ce mot cancer? D'où est-ce qu'il vient?
Il vient du grec et du latin. En latin, nous avons le terme cancer, en grec, le terme carcinos, qui veut dire cancer, crabe, et qui date donc de l'époque antique, grecque, où on s'est déjà intéressé et rendu compte qu'il y avait une maladie particulière qui faisait des dégâts dans l'organisme. À la manière, c'est une des étymologies supposées du crabe qui s'ancre dans la chair avec ses pattes et qui mord en quelque sorte la chair et qui ne veut pas en partir. Et c'est une étymologie possible du terme et de l'analogie, si vous voulez, entre le terme de crabe, qui signifie carcinos, et le terme de cancer, puisque ces deux termes, en français séparés, avaient la même étymologie en grec ancien.
On a l'impression, alors c'est juste une impression, que le cancer est une maladie de la modernité, une maladie très contemporaine, une maladie du XXe siècle. C'est faux, ça a toujours accompagné non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. Quel témoignage archéologique on a de la présence de cancer chez nos ancêtres?
Alors, juste pour revenir sur votre remarque, effectivement, c'est une maladie du XXe siècle et à la fois une maladie très ancienne. Alors, en tant que maladie très ancienne, on a des témoignages archéologiques, ostéologiques, puisque l'os est la matière vivante, ou ce qui reste de la matière vivante, qui se conserve le mieux dans les sols, dans les sous-sols. Et nous avons des témoignages très anciens, soit chez les humains, soit chez les animaux, dans les ossements, provenant de moments très anciens, de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, témoignant de la présence de cancers ayant pris racine dans l'os ou ayant attaqué l'os. Et avec les techniques contemporaines, nous pouvons affirmer avec relativement de certitude que ces personnes à qui appartenaient ces ossements avaient souffert du cancer. Donc on sait que c'est une maladie qui accompagne l'humanité depuis que l'humanité existe, très vraisemblablement.
Caroline Robert, je disais à l'instant que le cancer est une maladie du 20e, du 21e siècle. Comment est-ce qu'on peut quand même expliquer cet accroissement de la fréquence des cancers? Est-ce que c'est juste dû à une bonne nouvelle, au fait que la population vit tout simplement plus vieille et plus longtemps en bonne santé avant d'attraper des cancers?
Pas seulement. Pas seulement. Il est vrai qu'on vit plus longtemps, on a plus le temps d'en développer. On les dépiste aussi mieux, notamment pour le mélanome, qui est le cancer particulier dont je m'occupe. On les dépiste beaucoup plus, donc ça donne une impression d'incidence qui augmente. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont plus présents et qui sont aussi responsables de l'augmentation de certains cancers. Donc c'est plusieurs facteurs entremêlées qui font qu'effectivement, non seulement on les dépiste mieux, on vit plus longtemps, mais on s'expose aussi à plus d'agents carcinogènes.
Voilà, on est exposé à plus de facteurs de risque, et on verra que c'est aussi, ça a été tout un travail de compréhension accrue au XXe siècle, cette exposition et cette compréhension des facteurs de risque. Vincent Barras, si on revient un petit peu à ces questions d'histoire et d'histoire de la médecine notamment, quand est-ce qu'on a commencé à essayer de comprendre ce qu'était un cancer? Qui étaient les premiers à vouloir mettre des mots et des explications sur le fonctionnement du cancer?
Alors, les premiers témoignages dont on dispose, à part ces témoignages archéologiques qui ont leur langage propre, mais qui ne sont pas celui des humains, qui sont celui de la matière réelle, ce sont les témoignages des premiers médecins dont nous disposions encore des écrits. Alors, chez les Égyptiens, déjà, on a certaines indications. Alors, je ne suis pas spécialiste des hiéroglyphes, donc je ne peux pas le dire de première main, mais mes collègues affirment qu'effectivement, il y a déjà la mention de quelque chose d'équivalent à un cancer, de tumeur, de grossissement qui pourrait faire penser à ce que nous diagnostiquerions aujourd'hui comme un cancer. Mais chez les Grecs anciens, où là je peux parler de plus directement, Hippocrate et Galien, qui sont des médecins et bien d'autres encore qui ont laissé des sommes d'écrits considérables sur la médecine, en parlent assez régulièrement de cancer, au point même qu'il y a certains traités par ce médecin Galien, dont je viens de prononcer le nom, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui consacre un traité entier à la question des tumeurs et des cancers. Donc, dès que les médecins théorisent la médecine, écrivent, réfléchissent, proposent des théories, ils s'intéressent au cancer, qui est une des maladies parmi bien d'autres. Et on attribue dans cette première vague d'intérêt scientifique, moi je n'hésite pas à l'appeler scientifique, même si ce n'est pas la même science que celle d'aujourd'hui, il y a quand même un intérêt à diagnostiquer, à proposer des traitements et à réfléchir sur les causes de cela. Et on attribue ça à des sortes d'engorgement dans les fluides dont est composé l'organisme, avec la fameuse théorie humorale en particulier, qui décrit le corps comme constitué de 4 composants principaux, et des engorgements, des excès de l'un ou de l'autre de ces 4 composants peuvent créer des tumeurs contre nature ou cancer, ainsi les décrit-il ce gaz.
Cet excès, donc on parle par exemple d'un excès de bile noire qui pourrait provoquer de la croissance humorale, ça fait partie des travaux qui sont menés par ces pionniers, ou en tout cas ces ancêtres de la médecine occidentale, Hippocrate, Galien, Caroline Robert, il y a aussi tout un travail dès cette haute antiquité de classification, un travail de classification des tumeurs qui perdurera jusqu'au 19e siècle. Est-ce que ça c'est l'une des grandes difficultés dès qu'on se confronte au cancer, c'est de classifier ces cancers?
Alors, classifier, c'est un peu à double tranchant. C'est très bien parce qu'on y voit plus clair, on comprend mieux. Mais attention à ne pas rester prisonnier. Une classification, une description, c'est fait aussi pour être ensuite challengé et rediscuté. Et c'est vrai que la médecine a été très longtemps descriptive, classificatrice. Et c'est vraiment Claude Bernard qui a dit maintenant il faut une médecine plus conquérante, il y a des choses qu'on ne sait pas encore et un jour on les comprendra. Et l'inconnu d'aujourd'hui c'est la science de demain, donc il faut les deux, il faut pouvoir classer pour comprendre, mais il ne faut pas hésiter à revoir nos classifications. Et ça, je crois que c'est encore très important aujourd'hui.
Vincent Barras, ce qui est très étonnant quand on se penche sur l'histoire de la compréhension du cancer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'immense vide, ou en tout cas d'immense puzzle à beaucoup de trous jusqu'au 19e et 20e siècle. Est-ce que c'est juste une erreur d'appréciation, ou bien est-ce que vraiment on n'a finalement pas si bien compris que ça les cancers jusqu'au 19e siècle? Nous avons perdu Vincent Barras. Alors Caroline Robert, même si vous n'êtes pas spécialiste de l'histoire de la médecine et de l'histoire des cancers, est-ce que vous avez une réponse éventuelle à cette question? Et est-ce que finalement on a eu une vision très 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 lacunaire du fonctionnement et une perception très lacunaire du fonctionnement des cancers jusqu'au 19e siècle?
Oui, parce que en fait, ça rejoint un peu la question que vous m'avez juste posée. On a différentes façons de décrire et de classer. On peut classer par organe et puis maintenant, on commence à classer par mécanisme. Parce que, en fait, au début, on décrit, ah, ça se développe là, ben, ça se développe dans le foie, c'est un cancer du foie. Et puis après, on va comprendre que ce qui se développe dans le foie, peut-être, c'est secondaire à un cancer qui a été initié ailleurs. Et on comprend comment la métastase peut se produire. Et maintenant, on est en train de décrire les cancers tout à fait différemment. On les décrit par leur mécanisme initial. Qu'est-ce qui fait que la cellule est devenue cancéreuse? Et on a même, ça c'est vraiment assez récent, des médicaments qui se donnent pour des cancers qui sont des cancers d'origine différente, mais qui ont le même mécanisme de cancérogénèse. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et en fait, bah, l'histoire, elle est encore en train de se construire sous nos yeux, et heureusement.
Et on va bien sûr évoquer ensemble tous ces travaux au 19e et au 20e siècle qui ont permis de comprendre ces mécanismes propres à la cancérogénèse. Vincent Barras, je vous pose la question, puisqu'on a la joie de vous avoir retrouvé. Est-ce qu'il y avait des prémices de compréhension de la cancérogénèse avant le 19e siècle qui étaient des prémices sérieuses?
Bah, c'est toujours difficile pour l'histoire et les sciences de discriminer le passé en disant que c'était pas sérieux.
Bien sûr.
Ce qu'il y a aujourd'hui est enfin sérieux. Je pense qu'il y a du sérieux dans toutes les époques de la médecine. Et je pense que le concernement, si j'ose dire, c'est une expression qui vient de l'anglais malheureusement, où l'intérêt et la fascination, mais aussi la conscience que c'est une maladie grave, ça c'est déjà au fond une prise de conscience scientifique. Même si les tentatives d'explication ne sont pas sérieuses à nos yeux, qui datent de l'Antiquité. Donc je dirais que effectivement, il n'y a plus grand-chose que ce que nous pouvons retenir, par exemple, des textes anciens jusqu'avant le 19e siècle pour la cancérologie contemporaine, pour l'oncologie contemporaine. Sinon, l'idée qu'il s'agit d'un chapitre, au fond, extrêmement important dans la vie de la médecine et aussi dans la vie des patients. Donc ça, cette conscience-là, si vous voulez, que s'il s'agit de quelque chose de très sérieux, qui est incurable ou qui est très difficilement curable et qui demande tous les efforts du médecin, ça, si vous voulez, pour moi, c'est déjà le signe d'un intérêt profond, même si les classifications ne sont plus valides aujourd'hui. Mais autre chose d'intéressant, c'est l'attention à la description clinique que l'on trouve chez les auteurs très anciens, où l'on peut décrire des tumeurs et leur marche progressive, leur envahissement à la surface de la peau ou à l'intérieur du corps, qui sont tout à fait impressionnants de qualité chez les anciens. Donc cette précision qu'on appellerait cette fois-ci scientifique, et bien celle-ci, voilà ce que je dirais, une tentative sérieuse de faire face au cancer. En revanche, les moyens thérapeutiques, évidemment, c'est autre chose.
Oui, oui. Alors, parlons justement de ces coins de voile qui ont été levés sur le cancer avant le 19e siècle. Vincent Barras, est-ce que vous voyez des éléments qui ont été mis en évidence avant le développement de l'anatomie pathologique, avant le développement de la théorie cellulaire?
À part ce que je viens de résumer, il n'y en a pas tant que ça, sinon la qualité de la description clinique, mais qu'on retrouve pour d'autres types de pathologies, d'une part, et d'autre part, le fait que le cancer est très souvent une maladie mortelle dont on ne guérit pas et qui est une réalité pathologique, effectivement, que les anciens ont dû rencontrer, le diagnostic du cancer signifiant, et dans la conscience des médecins aussi, et peut-être même dans celle des patients de l'époque, l'idée d'une condamnation quasi inéluctable. Mmh. Donc ce pessimisme-là, qui est au fond un pessimisme scientifique, voilà ce qu'on peut garder de fondamental qui continue aujourd'hui. Mais je crois qu'effectivement, l'étape décisive pour la compréhension contemporaine du cancer, c'est vraiment le 19e siècle. Et je dirais, pour moi, comme historien, entre historiens, on peut se chamailler sur les vraies origines ou les origines qui semblent les plus importantes. En ce qui me concerne, c'est l'idée de la cellule, que l'organisme entier est composé d'un certain nombre de cellules et que c'est la cellule l'unité fondamentale. C'est une idée, un concept du 19e siècle, cela développé en particulier par un médecin allemand qui s'appelait Virchow, et qui, à partir de quoi on peut, et que l'oncologie, à mon avis, prend un véritable essor à partir de ce moment-là, en disant que il y a des masses de développement cellulaire incontrôlées, et c'est tout l'apport du 19e siècle et du début du 20e siècle que de préciser ce rôle de la cellule dans la constitution même de ce que c'est qu'un cancer, non pas des flux humoraux ou d'autres théories qui avaient cours jusque-là.
Caroline Robert, on peut peut-être du coup rappeler un petit peu du coup au 19e siècle les premières observations qui confirment la théorie cellulaire et qui confirment que le cancer est bien un détraquement de ce fonctionnement cellulaire.
Oui, alors moi je sais pas exactement ce qu'on savait au 19e siècle, mais une des choses qu'on ignore encore parfois aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est un, comme vous dites, la cellule est détraquée. Il faut bien se rappeler que c'est une de nos cellules à l'origine. Ça, on oublie souvent. C'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. C'est une de nos cellules à nous, de notre moi profond, qui va être détraquée, qui va avoir des mutations pour une raison X ou Y, qui va acquérir des mutations génétiques de son ADN et qui va pouvoir se multiplier de façon rapide, ne plus être soumise aux freins habituels de la croissance qui sont le contact avec les cellules qui sont à côté d'elle, qui ne va...
Et nous avons perdu Caroline Robert à l'instant. Vincent Barras, on reprend du coup sur ce 19e siècle. Alors justement, on parlait de la... Ah, Caroline Robert, vous êtes de retour. Caroline Robert était de retour, mais elle est repartie. Vincent Barras, Caroline Robert, donc, on vous retrouve, pardon. Alors là, il y a un gros décalage, donc on va reprendre Vincent Barras.
Allô ?
Oui, on va reprendre Vincent Barras à l'instant. Alors Vincent Barras, sur ce 19e siècle, à partir du développement de la théorie cellulaire, qu'est-ce que ça va changer, par exemple, dans des choses très concrètes en matière de prise en charge, de diagnostic, de pronostic sur les cancers ? Est-ce que ça a un impact immédiat sur les patients atteints de cancer ? J'ai l'impression d'être tous...
Je dirais pas sur les patients immédiats, un retentissement immédiat sur les patients, mais en revanche sur la compréhension de ce que c'est qu'un cancer, et en particulier la question de la métastase, puisque une des manifestations du cancer qu'on connaît parfaitement bien aujourd'hui, en tout cas très bien, c'est qu'un cancer reste rarement à sa place et qui tend à disséminer à travers l'organisme. C'est effectivement, comme disait ma collègue, notre moi profond qui se démultiplie, qui se détraque et qui s'en va envahir le reste de l'organisme par toutes sortes de voies, dont la voie métastatique, au loin, comme un vaisseau qui s'en va et qui va s'implanter ailleurs dans l'organisme. Et ça, cette compréhension-là du devenir et donc du pronostic également, des chances de survie en fonction du type de cancer, de son origine, est modifiée très rapidement avec l'idée et le concept de métastase provenant d'une cellule. Et ça date de la première moitié, effectivement, du 19e siècle, où ça donne, si vous voulez, une image plus claire de l'histoire naturelle du cancer à partir du moment où on comprend qu'il s'agit d'un dérèglement au niveau de la cellule, quelles que soient ensuite les causes de ce dérèglement, que ce soit génétique ou autre, ça viendra plus tard. Mais dès que vous avez l'idée qu'une cellule est malade, qu'elle se développe inconsidérément et qu'elle perd le contact avec son nourriture pour aller disséminer dans l'organisme, ce cancer, ça permet de décrire et donc de décrire aussi.
Alors, Vincent Barras, je vous interromps juste un instant, Vincent Barras, parce que le son et la qualité sonore est un petit peu délicate. Alors, on va peut-être trouver un autre moyen de vous joindre et peut-être même vous appeler sur votre bon vieux téléphone à l'ancienne. Ça peut se faire aussi. En tout cas, nous, on se retrouve tout de suite puisqu'on va partir justement du côté des découvertes réalisées au XXe siècle et notamment du côté de la génétique pour expliquer ces fameuses causes que vous évoquiez à l'instant qui provoquent les cancers.
France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp.
Caroline Robert, vous êtes parmi nous. Alors on va effectuer cette transition vers le XXe siècle. J'évoquais à l'instant le fait qu'on comprend, grâce à la théorie cellulaire, quelques mécanismes principaux du fonctionnement tumoral et de l'oncogénèse. Si on avance un petit peu dans l'histoire de la médecine et de la biologie, il y a aussi des travaux conséquents et majeurs en génétique qui sont réalisés au tournant du 19e et du 20e siècle jusqu'à la découverte de l'ADN en 1962. Est-ce que voilà, vous voyez des apports évidents de ces prémices de la génétique qui vont permettre aussi de mettre les biologistes et les médecins sur la voie de la compréhension, d'une nouvelle compréhension des cancers?
Oui, bien sûr, on comprend l'ADN, on comprend la façon dont l'ADN va être ensuite transformé en ARN puis en protéines, et on comprend, ça c'est au XXe siècle, mais c'est vraiment un bond énorme, le concept de gène, de oncogène et de gène suppresseur de tumeurs, c'est-à-dire on comprend que si une mutation siège dans une portion d'ADN qui va conduire à l'activation d'un gène qui est important pour la progression tumorale et qu'on appelle un oncogène, on va avoir donc cette prolifération cellulaire. En général, ça ne suffira pas, mais c'est un événement déclenchant et on peut avoir à l'inverse une mutation qui va inactiver un gène suppresseur de tumeur. Parce qu'on a toujours un peu comme le yin et le yang, on a des choses qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans l'autre au niveau de tous nos récepteurs cellulaires, et on a donc des gènes qui poussent vers la prolifération et d'autres qui empêchent la prolifération cellulaire et la mobilité cellulaire. Et quand tout marche bien dans ce qu'on appelle l'homéostasie, eh bien, il n'y a pas de cancer, les régulations se font bien. Et puis, s'il y a une mutation qui est mal réparée, eh bien, ça peut générer cette mutation qui va conduire à cette prolifération incontrôlée. Mais en fait, cette vision purement génétique, elle est mise en défaut parce que les cellules sont dans un environnement, dans un micro-environnement déjà, à l'intérieur d'un organe. Elles ont des cellules immunitaires autour d'elles qui peuvent les laisser ou non proliférer. Et c'est ensuite, bien plus tard, quand on comprend le système immunitaire et comment il peut ou non ignorer ou laisser pousser ces cellules anormales, c'est là qu'on va faire un autre énorme bond en avant, avec beaucoup, beaucoup d'échecs au début, puis enfin, plus récemment, l'immunothérapie antitumorale. Mmh. Donc, on peut agir sur la génétique, mais le mieux, c'est d'agir un peu sur non seulement le phénomène initial, mais aussi l'hôte qui est permissif ou non permissif.
Et on évoquera évidemment ces traitements et l'évolution de ces traitements en seconde partie d'émission. Si on se concentre encore un petit peu sur ces mutations, Caroline Robert, quelles mutations ont tout de même été bien identifiées et qui sont des mutations qui provoquent la production de tumeurs? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ça, d'un point de vue concret.
Eh bien, on a parmi les gènes, donc les oncogènes, je vais vous donner par exemple les oncogènes de la famille RAS, ce sont des protéines qui sont normalement à l'intérieur des cellules, à la partie interne de la membrane des cellules, et qui transmettent des signaux. En fait, ce sont des gènes qui codent pour des protéines qui, dans le fonctionnement normal, vont en général greffer sont des enzymes en fait, qui font un petit travail dans l'usine de la cellule. Et puis, si une mutation survient, moi je prends l'exemple du soleil, je suis très spécialisée dans le mélanome, et vous savez le rôle du soleil et des rayonnements ultraviolets qui vont générer potentiellement des mutations, ils vont peut-être activer un oncogène RAS qui à ce moment-là va être très 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 actif, ça va être une enzyme qui va être un peu folle, qui va être extrêmement active et qui va pouvoir donner à la cellule une capacité de prolifération importante. Et on a de l'autre côté, je vous parlais des gènes suppresseurs de tumeurs, on peut avoir également des mutations qui inactivent. Alors par exemple, un gène suppresseur de tumeurs qui est très connu, c'est le gène P53. On l'appelle même le gardien du génome parce que quand il est non muté et qu'il est présent, en fait, il est très nécessaire à ce que la cellule reste dans un état de prolifération normale. Mais s'il y a une mutation qui l'inactive, et surtout s'il y a une double mutation, parce qu'on a toujours deux représentants d'un même gène dans nos cellules, là, on risque très fort d'avoir un cancer qui se développe. Mmh. Donc il y a des oncogènes vedettes. Je vous parle des oncogènes de la famille RAS. Il y a BRAF en mélanome qui est très très connu. Dans le sein, il y a la HER. Enfin, il y a dans chaque cancer, on connaît des oncogènes qui sont très importants.
Un petit peu technique, Caroline Robert, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut expliquer que, par exemple, il y ait des tumeurs bénignes, d'autres malignes? Quelles caractéristiques on peut décrire à nos auditrices et nos auditeurs pour expliquer le fait qu'une cellule puisse devenir cancéreuse et acquérir ces propriétés qui sont néfastes pour l'organisme?
Alors, une tumeur bénigne, ça ne va pas donner de métastase. Tout à l'heure, mon collègue parlait de capacité de métastase. C'est vraiment, en fait, c'est la gravité du cancer. Hein. On a quelques rares cancers qui donnent très, très rarement des métastases. Mais ceux-là, on les considère un peu comme des cancers à malignité atténuée. Parce que si on arrive à les enlever complètement de leur site initial, on est tranquille. Mais dans la plupart des cas, c'est ça vraiment qui fait la gravité du cancer. C'est cette capacité à métastaser. Donc une tumeur bénigne, elle est parfois très embêtante parce qu'elle est peut-être difficile à enlever si elle grossit beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec un cancer qui va pouvoir aller se loger dans un autre organe qui fait que même si on enlève le site initial, on n'en est pas débarrassé pour autant. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. En tout cas, pour les patients, c'est une grosse différence. Mais c'est vrai que si, par exemple, je prends encore l'exemple de la peau, un grain de beauté, donc en dermatologie, on appelle ça un névus pigmentaire, si vous voulez, c'est une tumeur bénigne, c'est un petit conglomérat de cellules pigmentées, mais ce n'est pas un cancer, ça ne donne pas de métastase. Maintenant, si ce grain de beauté, une des cellules de ce grain de beauté, par exemple, va subir une mutation oncogène, il peut se transformer en mélanome. Et à ce moment-là, c'est une toute autre histoire, puisqu'il y a un risque que ça aille se mettre ailleurs. Et là, on a un risque vital qui est engagé.
Caroline Robert, est-ce qu'on peut avoir une idée de en combien de temps et en combien de mutations une cellule peut devenir cancéreuse ?
C'est très, très variable. On ne peut pas le savoir parce que tant qu'on ne la voit pas, ben on n'en sait rien. Il y a tout un temps qui est invisible. Et ça, on ne le sait pas. Il est probable qu'on ait des cancers qui apparaissent et qui disparaissent. Et ça, on n'en sait rien, malheureusement. Enfin, heureusement qu'on n'en sait rien parce que qu'ils n'apparaissent pas tous. Mais on le voit quand ça apparaît. Et en général, c'est des processus multi-étapes. Donc, il faut au moins des mutations qui sont oncogènes. Et puis ensuite, il faut d'autres choses. En fait, il faut beaucoup d'étapes pour qu'un cancer puisse vraiment s'installer dans un corps humain et proliférer. Et c'est souvent pas un processus très rentable, entre guillemets, pour le cancer. Il y a beaucoup de cellules qui meurent. Il y a beaucoup de cellules qui sont dans un état où elles manquent un peu d'oxygène. Donc, il y en a pas mal qui se nécrosent. Mais elles trouvent un terrain propice, elles peuvent arriver à faire une petite masse qui va grossir et qui va pouvoir prendre la place de l'organe normal et l'empêcher de fonctionner.
Et il faut rappeler, Caroline Robert, il faut rappeler un élément qui est à moitié rassurant, enfin qui est quand même rassurant, c'est qu'l'organisme élimine la majeure partie de ces cellules qui déraillent. J'ai lu en préparant cette émission, alors c'est une annonce, enfin c'est une phrase un petit peu spectaculaire, mais qu'on échappe à 10 000 cancers chaque jour. Est-ce que c'est vraiment pour la forme, mais est-ce que voilà, expliquez-nous un petit peu ça.
Moi, je pense pas qu'on puisse vraiment dire ça. Je pense qu'on n'en sait rien.
Oui, très bien.
Je pense que c'est très possible qu'il y ait des cellules qui soient éliminées. D'ailleurs, je vais vous dire, quelquefois, on le voit. On voit des, par exemple, encore l'exemple du mélanome. C'est facile parce qu'il est sur la peau. Et on voit des mélanomes qui ont régressé. Donc, ils sont apparus et qui ont disparu parce que le système immunitaire les a éliminés. Ça arrive. Bon, malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, parfois, il y a une disparition spontanée parce que le système immunitaire va nettoyer, va nous débarrasser de ces cellules anormales. Mais combien on en a, on ne sait pas. En fait, il y a une chose qui est intéressante et qui est bien importante à comprendre, même si c'est un peu compliqué. Il y a des phénomènes qui sont mutagènes. Donc, ça fait des mutations. Donc, dans une cellule, quand il y a trop de mutations, elle ne sait plus où elle en est quand il va falloir se multiplier parce qu'il va falloir répliquer l'ADN et essayer de faire un ADN identique pour la cellule qui va être la cellule fille. Et quand il y a des grosses erreurs, quelquefois la cellule est tellement embrouillée qu'elle meurt. Et en fait, ça, c'est mieux pour nous. Parce que la cellule meurt, elle va pas devenir cancéreuse. Finalement, ce qui est embêtant, c'est qu'on a nos systèmes de réparation, parce que c'est tellement merveilleux le corps humain, qu'on a des systèmes de réparation au cas où des choses arrivent, ou des mutations arrivent. Mais parfois, nos systèmes de réparation de l'ADN, ils font un peu du zèle, et ils réparent en se disant, ça doit être ça, je suis pas trop sûre, mais c'est quand ils font ça et qu'ils font une erreur, et que la cellule survit, en fait, c'est là que ça peut être dangereux.
D'une certaine façon, il prépare le terrain à la prolifération tumorale et à ces cellules malignes.
Exactement.
Vincent Barras, on vous a retrouvé. Alors là, on a fait un petit tour d'horizon de la compréhension biologique de ces cancers. Tout ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Et Caroline Robert en est une illustration parfaite, puisqu'elle mène des recherches actuellement sur les mélanomes, comme elle le disait. Tout ça ne s'est pas fait en un jour, mais tout ça s'est fait assez rapidement quand même au XXe siècle. Est-ce que vous voyez des dates clés, des jalons, des moments où on a franchi des pas conséquents en matière de compréhension des cancers au XXe siècle?
C'est dans sa compréhension solidiste et puis cellulaire au fond de l'origine du cancer, c'est évidemment la compréhension des mécanismes génétiques. Et qui commence à mieux comprendre, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, bien qu'il n'y a pas seulement tout ce qui se soit passé auparavant, à savoir le fait qu'une cellule, c'est...
Alors Vincent Barras, je suis désolé de vous interrompre à nouveau, mais on a à nouveau un petit problème de connexion. On va essayer de trouver malgré tout une solution. On va faire une petite pause musicale tout à l'heure, donc on aura peut-être le loisir de trouver une solution miraculeuse. Caroline Robert, je vous pose peut-être cette question, même si voilà, vous n'avez pas forcément mené des recherches en matière d'histoire des sciences, histoire des médecines, mais est-ce que vous voyez dans la première moitié du XXe siècle, et ou en tout cas jusqu'aux années 70, des éléments clés qui permettent d'établir ces connaissances que vous nous décriviez tout à l'heure?
Oui, en fait, on a compris que les cellules se multipliaient trop. Donc, on essaye d'empêcher leur multiplication en essayant d'entraver les processus de réplication de l'ADN ou de la fabrication de l'ARN à partir de l'ADN. On essaye de leur mettre des entraves à la prolifération. Donc, c'est les chimiothérapies conventionnelles qui marchent très bien dans certains cancers, qu'on utilise souvent en combinaison pour vraiment essayer de bloquer le plus vite possible. Et en fait, dans ces cas-là, ça vous explique un peu les effets de la chimiothérapie sur d'autres cellules qui se multiplient rapidement, comme les cellules de nos follicules pileux qui font les cheveux. Donc on perd ses cheveux, on a des troubles digestifs parce que l'épithélium de notre tube digestif aussi prolifère rapidement. Mais c'est vrai que avec ces chimiothérapies, on arrive à faire fondre certains cancers parce que on va vraiment avoir une fenêtre d'action sur les cellules qui se multiplient très vite. Donc ça, c'est vraiment les traitements conventionnels qu'on utilise depuis très longtemps et qui marchent encore très bien pour certains cancers.
Alors là, on parle déjà un peu de traitement. Moi, je pensais plutôt à des découvertes en termes de recherche fondamentale et de recherche plus liée à la physiologie et à la biologie des cancers dans cette première moitié ou dans cette moitié jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Est-ce que vous voyez des grands noms, des chercheuses ou des chercheurs qui ont pu établir des faits sur les cancers qui ont un petit peu changé la donne à la fois dans leur compréhension, mais puis après, bien évidemment, dans l'adaptation de traitement à ces cancers?
Alors moi, je pense que là, il faut rendre honneur aux gens qui ont décrit les gènes, les oncogènes. Donc, je vous ai parlé des oncogènes de la famille de RAS, BRAF, des familles qui s'appellent EGFR pour épidermal growth factor, tous ces oncogènes et ces gènes suppresseurs de tumeurs. Je vous ai parlé de P53, de rétinoblastome. Donc là, c'était une grande, grande découverte pendant, là, vraiment les années 70, tous ces oncogènes qui ont été découverts, il y en a beaucoup, et qui sont des gènes qui codent pour des protéines, encore une fois, qui font un travail normal dans la cellule, on en a besoin, mais quand ils sont mutés ou quand ils sont surexprimés, pour les oncogènes, ou quand ils sont anéantis et qu'ils ne s'expriment plus, pour les gènes suppresseurs de tumeurs, là, il y a un dérèglement, ça va plus, il n'y a plus l'équilibre, et ça, c'est vraiment des découvertes fondamentales, et c'est ce qui a permis, des dizaines d'années après, de découvrir, excusez-moi si je parle encore de thérapeutique, mais des thérapies ciblées, qui vont agir précisément sur ces gènes-là, au lieu d'agir globalement sur les cellules qui prolifèrent vite.
On y vient dans un instant, bien sûr, aux thérapies. Peut-être Vincent Barras, on vous a retrouvé, on retente le coup. Vincent Barras, du coup, on a parlé là de recherche fondamentale, de recherche plus liée à la biologie, à la physiologie des tumeurs et des cellules cancéreuses. D'un point de vue plus général, d'un point de vue plus de compréhension, est-ce que le XXe siècle, c'est aussi le moment où on essaie de comprendre les causes et les facteurs de risque des cancers? Est-ce qu'on essaie vraiment là d'aller creuser autour de l'expérience des patients?
Oui, bien sûr. Au XXe siècle, indépendamment ou
plutôt en lien avec ces découvertes fondamentales au niveau de la génétique et de la molécule, pour ainsi dire, et qui sont cruciaux et qui déterminent aujourd'hui une bonne part à la fois de la compréhension et des moyens de traitement du cancer. Il y a aussi l'impact, je dirais, sur le plan de l'organisme et sur le plan sociétal, carrément, de ce que c'est qu'un cancer. Et je pense que là aussi, il ne faut pas oublier cette dimension-là lorsqu'on parle du cancer, à savoir le fait que c'est une maladie qui touche la cellule, la molécule, le gène et le dérèglement de la cellule, mais qui touche aussi l'individu, d'une part, et la société, d'autre part. Donc, c'est une maladie aussi bien sociale que moléculaire. Et c'est tout l'intérêt et tout le drame aussi de cette maladie particulière, de toucher l'ensemble de ce spectre. On peut vraiment dire qu'au XXe siècle, et en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, certains sociologues ont décrit le XXe siècle comme le siècle caractérisé par, chaque siècle étant caractérisé par une sorte de maladie type, le XXe siècle étant le siècle du cancer, alors que le XIXe siècle aurait pu être celui de la tuberculose. Je reprends les termes là d'une sociologue américaine qui s'appelle Susan Sontag. Le cancer, c'est la métaphore même de la société, aussi du développement social spectaculaire et du dérèglement du développement au niveau sociétal qui correspond, qui a comme son image dans ce qui se passe au sein de l'organisme. Et cet effet de miroir entre l'organisme et la croissance incontrôlée et les effets sociaux de la croissance incontrôlée, en particulier les études faites au niveau de l'environnement et de toutes sortes de facteurs pouvant augmenter, et c'est les épidémiologues au XXe siècle qui vont faire elles aussi des découvertes fondamentales, par exemple dans le lien entre la fumée, phénomène social du XXe siècle, la fumée de cigarette, et le développement du cancer du poumon. Donc ces liens-là, si vous voulez, entre société, mode social, c'est bien le XXe siècle qui en est le protagoniste principal. Et je crois que c'est crucial pour l'histoire du cancer de mettre en évidence ce lien-là.
Restez avec nous parce que ce lien, il vient d'être établi. On va poursuivre dans un instant cette découverte des cancers. Après avoir détaillé un petit peu l'évolution de la compréhension de leur physiologie, on va se pencher dans un instant sur l'histoire des stratégies de lutte contre les cancers. Ce sera juste après ça.
Oñaguen, minha canseira que tem medida. Oñaguen, pouca afronta com passar. Oñaguen, 30 anos de Santo Mê, leva a família de chamiço, com minha tristeza e minha saudade. Oñaguen, minha canseira que tem medida. Oñaguen, pouca afronta com passar. Oñaguen, 30 anos de Santo Mê, leva a família de chamiço, punha tristeza e minha saudade. Oi, 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 nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Oi, oi, oi. Nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém para dar de mão.
Minha cancera, catem medida par Cesaria Evora dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte des cancers et de la mise au point de traitements pour lutter contre ces maladies. Nous en parlons avec Caroline Robert, chef de l'unité de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy et directrice d'une équipe de recherche translationnelle à l'INSERM sur la résistance thérapeutique. Nous sommes également en ligne avec Vincent Barras, historien et médecin, professeur d'histoire de la médecine et des sciences à l'Université de Lausanne et au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Alors, après avoir parlé de la physiologie, des cancers et du cancer en première partie, on va peut-être en arriver maintenant aux fameux traitements qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour évoquer ces traitements, je vous propose d'écouter cette archive qui date de 1959.
Distrait, préoccupé, pressé, personne n'échappe aux statistiques. Dans cette foule, il y aura dans l'année une personne sur huit atteinte par le cancer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne guérira pas. Grâce au dépistage précoce pour lequel les centres spécialisés ont été créés, la guérison est possible dans la plupart des cas. Mais chacun de nous doit se tenir sur ses gardes et ne pas tarder, devant le moindre signe d'alarme, à consulter son médecin qui le dirigera, s'il le juge utile, vers un centre spécialisé. Et ces établissements, alertés à temps, sont capables de mettre l'ennemi à la raison. Les ressources de la radio y ont été mobilisées pour localiser les tumeurs dont l'emplacement, soigneusement repéré, est reporté sur un graphique. Mais il importe également de bien connaître les formes particulières prises par le mal. L'arsenal des microscopes est là pour permettre l'étude des tissus et, avant d'adapter à chaque cas le traitement approprié, l'investigation au niveau des cellules malades. Ainsi, le traitement du cancer de la lèvre utilisera le radium que des tubes pneumatiques amènent au bloc opératoire. Pour un autre cas, on fera appel à la cyclothérapie. Cette technique utilise les rayons à haute fréquence qui pénètrent le malade tandis qu'il tourne devant la source émettrice. On mettra souvent à contribution la chirurgie qui reste une des premières armes connues contre le cancer.
Caroline Robert, une réaction à cet archive qui contient déjà beaucoup de choses et finalement on est en 1959 mais on voit déjà que le panel est assez élargi pour prendre en charge ou en tout cas lutter contre le cancer.
Oui, et puis même un tout petit peu avant en fait, c'est Gustave Roussy, hein, le premier, c'est un anatomopathologiste qui est le premier à voulu créer un hôpital qui s'appelle l'hôpital Gustave Roussy où je travaille. Il a été le premier à créer un hôpital dédié entièrement au cancer et ça c'était tout à fait nouveau. Et maintenant, il y a donc ce dont on parle ici, des centres de lutte contre le cancer et ça c'était quand même quelque chose de très très innovant hein, à l'époque.
Vincent Barras, une réaction à cet archive. Ce qui est intéressant, c'est que on finit par finalement ce par quoi on a commencé dans les proto-traitements de cancer, c'est la chirurgie. Expliquez-nous un petit peu en quoi consistaient ces premières chirurgies pour traiter des cancers ou en tout cas pour extraire des tumeurs.
Alors ça, on en a des témoignages déjà bien avant le 19e siècle aussi, de tentatives d'extirpation de ce crabe, ce cancer, hein, c'est le même mot, par des moyens chirurgicaux qui aussi étaient tributaires des techniques de l'époque et des limitations, notamment au niveau des moyens de désinfection d'une part et d'autre part de l'analgésie. Alors, inutile de dire que ces traitements étaient pour le coup très héroïques et à partir du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, la chirurgie utilise l'anesthésie et permet donc des interventions plus profondes. Eh bien, il y a tout un développement très technique, très, très pointu vraiment des chirurgiens qui deviennent un peu les maîtres du cancer, en tout cas pour l'aspect thérapeutique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un des rares moyens de traitement efficace, c'est difficile à dire. En tout cas, il est possible, et il est même certain qu'ils en aient guéri certains de ces cancers, peut-être plus facilement localisables ou plus rapidement diagnostiqués, par les moyens de la chirurgie. Le deuxième traitement mis en place et qui dans lequel on reconnaît encore aujourd'hui une efficacité, c'est la radiothérapie qui se met en place à partir du début du XXe siècle, entre autres à Paris, avec les découvertes de Marie Curie et d'autres de ces scientifiques qui découvrent les propriétés des moyens radioactifs en particulier et des rayonnements particuliers. Et le cancer fait l'objet d'une vaste investigation pour la thérapeutique par les rayons. Et la chimiothérapie sera un peu plus tardive à se mettre en place à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, un petit peu auparavant déjà. Et avec cela, effectivement, on aura trois grands piliers, si vous voulez, de l'armement thérapeutique. Je suis frappé dans l'archive, d'ailleurs, par la métaphore militaire, l'arme, la lutte, la victoire, la défaite.
Oui, on sent une grande confiance dans ces outils qui sont à disposition de la recherche à cette époque-là et à la fois une confiance qui est aussi peut-être propre à cette époque dans le progrès.
Absolument, ce qu'on appelle de façon un peu impropre les 30 glorieuses par ailleurs, c'est aussi les 30 glorieuses de la science qui croient pouvoir tout conquérir, vaincre l'infection. On a vu que ça marchait pas toujours comme ça, vaincre le cancer et vaincre l'ensemble des maladies. Alors évidemment, on est un peu plus modeste aujourd'hui en termes en termes du langage, en tout cas, je l'espère, on est certainement meilleur en termes d'efficacité qu'on l'a été dans les années 50, en dépit de ce langage guerrier. Mais ce qu'il faut aussi noter dans cet archive que vous venez de diffuser, c'est aussi la question de la prévention. Alors, sur laquelle le commentateur de l'époque passe très rapidement, mais qui est devenu aussi un point, enfin l'épidémiologie, comment détecter les cancers le plus tôt possible, et ce qu'il y a derrière aussi, comment les prévenir, c'est-à-dire en empêchant l'exposition à des facteurs dont on commence à savoir au XXe siècle, qui sont des facteurs d'exposition au cancer. Alors, on pense à la fumée, mais à toutes sortes d'expositions,
l'alcool,
on en encore tous les jours, enfin de l'alcool, les polluants divers et variés, les composants alimentaires, et ça devient aussi quelque chose, une préoccupation majeure de l'oncologie et du système médical face à la question du cancer à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Mmh. L'exemple majeur le plus spectaculaire étant bien sûr celui de la fumée, en l'occurrence,
oui, c'est le cancer des poumons. Caroline Robert, on parle là de plusieurs outils qui se mettent en place. Vous évoquiez tout à l'heure, alors je vous ai interrompu, je vous redonne le champ libre sur cette question de la chimiothérapie. Concrètement, comment ça fonctionne et sur quel type de cancer on va utiliser ces traitements médicamenteux dans les années 40-50 au début de la chimiothérapie?
Oui, ce qu'il faut dire, je pense que c'est très vrai d'utiliser des métaphores militaires. On le fait beaucoup d'ailleurs avec les patients. On fait de la stratégie. Et c'est vrai que la chirurgie et la radiothérapie, c'est pas très stratégique. En fait, c'est très défensif. On enlève ce qui dépasse, on enlève ce qui fait mal, on enlève ce qui pousse de façon exagérée. On essaye de le réduire. Mais avec la chimiothérapie, ça commence à être stratégique, c'est-à-dire on a compris que les cellules proliféraient de façon exagérée, on a compris qu'en agissant sur des mécanismes de prolifération, de réplication de l'ADN ou de transformation de l'ADN en ARN, on allait pouvoir bloquer ces cellules. Donc on commence à avoir une stratégie qui est fondée sur le raisonnement et la compréhension. Et on traite encore, comme je vous disais, beaucoup de cancers avec des chimiothérapies, beaucoup de, notamment de leucémie avec des chimiothérapies qui sont très efficaces. Et souvent, on les combine pour avoir des effets encore plus forts.
Alors, comment ça fonctionne, une chimiothérapie?
Eh bien, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les cellules, quand elles prolifèrent, elles sont obligées de répliquer, enfin de multiplier leur ADN, et donc elles font ça très rapidement, de façon exagérée, et on met des agents, les chimiothérapies, beaucoup de chimiothérapies vont en fait entraver cette réplication de l'ADN, et faire des erreurs qui vont être des erreurs fatales pour les cellules, et donc elles vont mourir parce qu'elles vont plus pouvoir répliquer correctement leur ADN. Beaucoup de chimiothérapies agissent comme ça. Donc en fait, on agit sur ce mécanisme de prolifération rapide au niveau des acides nucléiques qui sont emballés dans leur prolifération.
Avec l'inconvénient dans le cas de la chimiothérapie, c'est que c'est un traitement qui est assez généraliste, on va dire. Et en tout cas, ça va pas discerner entre cellules tumorales et cellules saines. Caroline Robert, là, ça c'est peut-être le frein principal, l'écueil principal de la chimiothérapie, c'est que c'est un traitement qui est très lourd.
Alors, c'est un traitement, en fait c'est un poison, mais c'est un poison qu'on utilise à une dose qui est supportable pour l'individu. Et il y a cette fenêtre d'action, c'est-à-dire comme les cellules cancéreuses prolifèrent plus, on a besoin d'une dose moindre pour les empêcher de proliférer, mais on va quand même avoir un effet délétère sur certaines autres cellules du corps humain qui prolifèrent rapidement. Et puis, si on donne des doses trop fortes, ça va être effectivement très toxique. Donc, on a une petite fenêtre d'opportunité d'action, mais effectivement, ce sont des agents très toxiques.
Si on poursuit un petit peu dans la métaphore militaire, Vincent Barras, l'arsenal thérapeutique s'élargit au cours du XXe siècle et puis surtout depuis le début du XXIe siècle. On parle de plus en plus d'immunothérapie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un traitement qui a été pensé dès le XIXe siècle, mais qui a mis très longtemps avant d'être mis en place. En quoi consiste-t-il et quelle est l'idée derrière cette immunothérapie pour lutter contre les cancers?
Je pense que ma collègue sera mieux placée que moi pour savoir exactement, mais en gros, historiquement parlant, effectivement, l'idée que le cancer mobilise des forces au sein de l'organisme, des forces qui peuvent également aider à le combattre, je poursuis cette métaphore guerrière, elle naît à la fin du XIXe siècle, au moment où on se rend compte qu'il existe ce qu'on appelle un système immunitaire, à savoir un système de défense de l'organisme contre ce qui n'est pas lui-même. Et l'idée là derrière, c'est que la tumeur n'est pas c'est soi-même, mais c'est soi-même devenu faux, et qu'il y a donc la possibilité, peut-être grâce à ce système qui reconnaît des agents extérieurs contre lesquels il faut agir, des bactéries par exemple. Une bactérie arrivée dans l'organisme est un agent extérieur, ou un corps étranger, un organe étranger. La transplantation d'organes se heurte à ce système immunitaire. Eh bien, le cancer, la tumeur cancéreuse serait un peu de cet ordre-là, et que, au fond, l'organisme pourrait mobiliser ses propres ressources contre cette espèce de corps devenu étranger qu'est la partie cancéreuse. C'est une idée qu'on retrouve très bien, sans qu'on en ait les moyens, au 19e siècle, ou au début du 20e siècle, et qui aujourd'hui est une idée très très forte, et qui est largement subventionnée. Énormément de recherches se font, notamment dans le centre hospitalier universitaire où je me trouve, mais aussi ailleurs, à Lausanne, où il y a un très fort développement de l'immunothérapie anticancéreuse, aujourd'hui, consistant donc à donner des agents d'origine immunologique pour lutter contre les cellules cancéreuses. Mais ma collègue vous expliquera ça mieux que moi, sans doute.
Caroline Robert, qu'est-ce qui manquait comme connaissance en matière d'immunologie et en matière de biologie pour développer l'immunothérapie, qui était une idée en germe dès la fin du 19e siècle?
Oui, mais d'ailleurs, il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que au 19e siècle, justement, il y a un médecin qui s'appelait Coulet, qui a observé la régression d'un cancer alors que le patient faisait une grosse infection, on appelle un érysipèle. Et du coup, il a essayé ensuite de traiter des cancers en générant des infections. D'abord, il a injecté des germes, donc il a quand même créé pas mal de problèmes. Puis après, il a injecté des germes inactivés, des toxines. Et il a pu obtenir un bénéfice chez certains patients. Et bon, c'était très, très préliminaire et artisanal. Mais maintenant, on comprend en fait le principe de cette toxine de Coulet, parce qu'on sait, comme disait mon collègue tout à l'heure, que le système immunitaire va être apte à reconnaître des choses qu'il va juger comme étrangères. Et comme le disait très bien mon collègue, la cellule cancéreuse, c'est nous, c'est notre soi, mais c'est notre soi modifié. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que, à la faveur de toutes ces mutations, moi je vous ai dit, les cellules cancéreuses, il y a des mutations qui sont initiales et qui sont importantes pour créer le cancer, mais à la suite de toutes ces proliférations non contrôlées, il y a plein d'autres mutations qui se créent. Et quand vous avez beaucoup de mutations, vous pouvez générer des protéines anormales. C'est ce qu'on appelle des néo-antigènes, des néo-protéines. Néo, ça veut dire nouveau. Et là, le système immunitaire, il connaît pas ça. Il se dit, mais c'est quoi ces trucs? Ça a l'air trop étranger. Et il va pouvoir réagir contre ça. Et l'énorme progrès qui a été fait, c'est à peu près il y a une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, le prix Nobel a été remis aux deux chercheurs qui ont découvert ce concept, parce que l'immunothérapie antitumorale, ça fait longtemps qu'on essaye et qu'on se casse la figure. Et le vaccin anti-cancer, ça marchait pas du tout. Jusqu'à ce que c'est James Allison et Hong Shou, donc un Japonais et un Américain, qui ont eu l'idée, non pas d'essayer de pousser le système immunitaire pour qu'il aille détruire les cellules anormales, mais comme je vous disais, il y a toujours le yin et le yang, ça marche toujours ça. Il y a des récepteurs, on a tous des récepteurs qui font que notre système immunitaire se calme au bout d'un moment, il n'est pas toujours actif. Sinon, on ferait toujours des maladies auto-immunes si on était toujours en train d'être en grande activité immunologique. Et eux, ils ont compris quelque chose de génial. Ils ont travaillé, ils ont découvert des molécules qui étaient ces freins physiologiques. Et ils ont découvert qu'avec des anticorps qui se fixent sur ces molécules qui sont des freins normaux, notre système immunitaire, ben en fait, on lâche le frein. Donc, notre système immunitaire, il est beaucoup plus actif. Mais attention, parce que l'immunothérapie, ça plaît beaucoup aux gens dans son concept. Parfois, les patients, ils arrivent, ils disent « moi, je veux de l'immunothérapie », comme si c'était une médecine naturelle. C'est une médecine qui n'est pas dénuée d'effets secondaires, parce que le système immunitaire, quand il est trop activé, en fait, qu'est-ce qu'on veut, nous?
On l'a vu, par exemple, de façon tout à fait prosaïque avec le Covid, un emballement du système immunitaire n'est pas du tout souhaitable pour l'organisme.
Exactement. Nous, on veut créer, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, on veut créer une maladie auto-immune contre notre cancer. mais on ne veut pas créer une maladie auto-immune contre nos organes qui fonctionnent très bien. Et c'est ce qui arrive parfois avec nos immunothérapies. Et donc nous, prescripteurs de ces médecines qui ont quand même révolutionné la prise en charge du cancer, parce que ça marche très 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 bien pour certains cancers, ben on fait très attention avec nos patients aux effets secondaires et on les prévient parce que c'est une toxicité qui est très nouvelle à laquelle nous, oncologues, on n'était pas habitués en fait.
Justement, Caroline Robert, quelle place occupe aujourd'hui l'immunothérapie dans les stratégies thérapeutiques pour lutter contre le cancer? Est-ce que c'est en train de devenir l'équivalent de la chimiothérapie ou alors est-ce que c'est encore des traitements minoritaires réservés à certains types de cancers en particulier?
Ah non, c'est pas du tout minoritaire, c'est de plus en plus répandu. Ça ne marche pas aussi bien pour tous les cancers, mais ça a commencé avec le mélanome. C'est pour ça que nous, en tant que médecins du mélanome, on a utilisé ça dès le début. Donc ça fait 10 ans qu'on assiste à cette révolution qui, pour la première fois, nous permet de guérir des patients, ce qui n'arrivait pas. Les patients qui avaient vraiment une maladie disséminée, c'était très très fatal. Ça marche aussi assez bien dans le cancer du poumon, ça marche dans certains cancers génito-urinaires, plus ou moins bien, il y a des molécules un peu différentes, mais ce concept, il est en train de se généraliser à beaucoup, beaucoup de cancers, et c'est quelque chose qu'on utilise en routine, c'est plus du tout expérimental.
Vincent Barras, on approche de la fin de l'émission, peut-être qu'on peut quand même évoquer le fait qu'aujourd'hui, le cancer est une maladie de mieux en mieux comprise, et donc de mieux en mieux traitée, et donc ça permet de sauver un nombre croissant de vies. Expliquez-nous un petit peu comment on a évoluer du côté de la perception de cette maladie. Est-ce que c'est une maladie qui est en train de, qui n'est plus tabou, et comment elle est sortie de ce tabou-là?
Oui, je pense que c'est une maladie qui est beaucoup moins tabou que ce qu'elle a pu être encore il y a 50 ans, où dans la plupart des cas, les médecins traitants hésitaient à dire à leurs patients « vous avez un cancer ». On a plein de cas qui ne sont pas des anecdotes, mais qui sont un peu le courant de la médecine, je dirais, des années 50 ou 60, où encore, il ne fallait surtout pas dire aux patients, pour ne pas le démoraliser, qu'il souffrait d'un cancer. Je pense que un des facteurs principaux, ça a été une sorte de démocratisation de l'idée du cancer et une sorte de détabouisation accompagnant cette démocratisation. Sous l'effet d'ailleurs aussi, j'aimerais insister pour terminer sur ce point-là, sur les patients eux-mêmes qui, plutôt que de se sentir comme des êtres démunis, impuissants face à la maladie, il y a eu des associations de patients qui se sont créées à partir de ces années-là, il y a 50, 60 ans, pour dire nous avons notre mot à dire, nous sommes, a priori, les premiers concernés, donc nous voulons dire, nous voulons être informés, nous voulons participer nous aussi à cette lutte contre le cancer, et pas seulement quelque chose de la part de la technique et de la médecine et des médecins. C'est aussi nous qui sommes au centre de la question. Et ces associations de patients, ces mouvements sociaux qui disent le cancer n'est pas tabou, c'est pas seulement les médecins et les progrès de la médecine qui ont contribué, mais c'est tout un ensemble dans lequel la société elle-même ou un certain nombre de ses agents, en particulier ses associations de patients ou de proches de patients, ont pris un peu les rênes en main pour dire il est important que nous soyons, que nous autres concernés ayons notre mot à dire, y compris d'ailleurs parfois dans la marche de la recherche. Nous préférons tel ou tel type de recherche parce que ce médicament ou cette façon de faire ne nous plaît pas, et donc parfois en contradiction avec la recherche médicale. Et ça, c'est quelque chose qui est très récent et je pense qui est déterminant dans l'histoire contemporaine du cancer et de son acceptation, entre guillemets.
Et dans sa nouvelle perception de cette maladie, qui n'est plus une maladie régulièrement, ou en tout cas de façon récurrente, incurable, mais qui peut devenir une maladie chronique, une maladie qui peut être soignée, une maladie qui peut être guérie. Merci beaucoup à tous les deux, Caroline Robert et Vincent Barras, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour nous expliquer l'histoire de la découverte des cancers. Bien sûr, la recherche continue et on attend bien sûr de nouvelles découvertes dans ce domaine. 4 par Roseau et Blikbassi pour conclure cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema-Agnolo, Sam Bakias et Nicolas Berger à la réalisation. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
Tu viens ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé à la belle étoile par Alice Buteau et Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France.